Europe numéro 1 à Europe 1, 50 ans d'archives sonores.
Ici Europe numéro 1.
Here is Europa number 1.
This is Europe number 1.
Il fera jusqu'à 26 à 27 degrés à Paris cet après-midi, 29 à Nantes, 32 à Bordeaux et à Périgueux, à Toulouse et 33 à Pau.
Vous êtes formidables. Pour vous en convaincre, Europe numéro 1 présente comme chaque mardi l'émission de Jacques-Antoine. Vous êtes formidables.
Salut les copains.
L'émission de Daniel Philippe.
Alors ne tirez pas.
Du cœur au boulot, wow, Mélodie Parade, Gérard Klein.
Troisième but, 3-0. Nous sommes, ils sont tous ensemble. La France entière est championne du monde de football. Historique.
Europe 1, découverte. Europe 1.
We copy you down, Eagle. You're looking good here.
Voici donc Musicorama sur le Tour de France, présenté par l'huile Le Sieur.
Pulpeux comme la pêche.
Marc Tronchot.
Bonjour à tous et bienvenue parmi nous. Une émission un peu exceptionnelle aujourd'hui, puisque ce dimanche, dans Les Enfants d'Europe 1, nous recevons la famille pour célébrer un anniversaire. La famille, ce sont nos cousins de Paris Match, et l'anniversaire, c'est celui auquel nous nous sommes associés pour la sortie de leur numéro 3000. Et figurez-vous qu'on a eu envie de faire ça avec eux pour beaucoup de bonnes raisons. D'abord parce que certains de nos illustres anciens ont marqué de manière indélébile nos deux maisons. Daniel Philippaki en est la meilleure illustration, photographe à Paris Match, animateur d'émissions fondatrices à Europe numéro 1. Ensuite, parce que nos destins et nos journalistes se sont souvent croisés sur les terres de l'information, une de nos vocations communes. Enfin, et même si les uns font tourner des rotatifs pendant que les autres utilisent des fréquences, nous appartenons au même groupe, le groupe Lagardère, ce qui crée également des liens et vous explique mieux les raisons de cette petite réunion de famille. Ce préambule étant fait, je suis donc très heureux de recevoir dans ce studio l'actuel directeur de la rédaction de Paris Match, Olivier Royan. Salut Olivier.
Bonjour Marc.
3000 numéros pour un journal au moment où on parle de la crise de la presse écrite. Quelle belle longévité. Et quel avenir ?
Bah oui, 3000 numéros, pour nous, c'est un événement historique. Et quand un événement historique se produit, le public s'attend à ce que Match soit le meilleur, que nous publions les meilleures photos, les meilleurs textes, les plus spectaculaires et évidemment inédits. Et je pense que notre réputation se joue dans ces moments-là et s'entretient chaque semaine. Alors on s'est fixé des défis, plusieurs défis pour ce numéro 3000 que l'on veut un peu spectaculaire et différent des autres. Et on espère que le lecteur se dira en le lisant, je n'ai jamais vu ça ailleurs et je ne le verrai pas ailleurs.
C'est compliqué à faire.
Très compliqué parce qu'on se fixe des défis. On veut pouvoir balayer absolument tout le spectre de Match, c'est-à-dire un journalisme de l'émotion, un journalisme de l'humain, de terrain. Et on a essayé d'aborder des... Non pas à travers le prisme de la nostalgie, mais en essayant de dire, ça y est, le futur cette fois-ci, ce futur, ce qu'on vous annonçait dans les numéros, dans les 50 ans de Match ou dans les numéros précédents, au numéro 2000, 2500, ça y est, cette fois-ci, le futur est là et il faut vraiment en parler sérieusement.
Alors je disais tout à l'heure que nos deux familles étaient liées. Vous considérez aussi à Paris Match comme des enfants d'Europe 1, souvent, parfois?
Quand j'ai été quand reporter à Match pendant plus de 10 ans, correspondant aux États-Unis, et c'est vrai qu'à Match, on dit toujours que l'envoyé spécial a toujours raison. Et combien de fois on a été avec les journalistes d'Europe sur le terrain. Et c'est vrai que je me souviens en particulier d'un souvenir. J'avais traversé tout Panama pour arriver pour la chute de Noriega. Je dictais mon papier, j'étais peut-être avec quelqu'un d'Europe, et on appelle notre rédaction, on dit « Ah non, oubliez Panama, c'est terminé, tout le monde a les yeux braqués sur la Roumanie ». C'est vrai que le journaliste de Match est un journaliste passionné, c'est un journalisme de terrain, et que on veut vraiment faire vivre l'événement à travers nos envoyés spéciaux.
Beaucoup de reportages en commun, effectivement. Vous avez la photothèque, nous avons la magnétothèque pour montrer, faire entendre, pour mieux comprendre l'horreur d'une guerre, la dimension d'un exploit, la tragédie des hommes, leur passion pour être les voisins des rois et des reines, pour imaginer le futur également à partir de l'histoire. À tout seigneur, tout honneur, j'ai envie de commencer par la reine d'Angleterre. Allez, c'est pas si fréquent d'entendre parler en français. La scène se passe à l'Élysée, sous la présidence de René Coty, en 1957, et lors de la cérémonie des toasts.
Monsieur le Président, je suis profondément émue, ainsi que mon mari, de votre généreux accueil. Vos paroles nous ont rappelé à tous deux des souvenirs qui nous sont chers. En cette même saison, au printemps de 1948, Nous avons eu la joie d'être reçus à Paris à l'occasion de notre toute première visite ensemble au dehors de notre propre pays. La gentillesse, la gaieté de cœur et la générosité étaient alors telles que nous les retrouvons chez vous aujourd'hui. Et nous vous en disons de tout cœur merci. Monsieur le Président, je lève mon verre en votre honneur et je bois à la prospérité de la France et des peuples qui lui sont associés.
Ça fait drôle de entendre la reine Elisabeth en français. J'ai souvenir d'avoir vu la photo qui doit aller avec ce son dans Paris Match.
Absolument, et c'est surtout ce qui est incroyable, c'est qu'on me demande parfois quelle est la couverture de match qui s'est le plus vendue, le numéro de match qui s'est le plus vendu, et bien c'est le numéro de la visite royale d'Elisabeth II en avril 57. 2 300 000 exemplaires ou 2 400 000 exemplaires du journal vendu, ça passionnait absolument les Français. Et c'est vrai qu'Elisabeth fait partie de ces grands personnages qu'on a suivis finalement sur 3 générations depuis la fondation du journal en 49. Je me souviens d'elle inaugurant la statue de Churchill à Paris il y a quelques années, où elle disait mon premier ministre Churchill.
Et du reste, c'est Churchill qui fait la première couverture de Paris Match.
Absolument, avec une couverture un peu particulière, puisqu'il ne s'agit pas d'une seule photo, mais 4 photos pour le premier numéro de match, avec Churchill en particulier, une autre photo consacrée au pont aérien sur Berlin.
On va la retrouver dans le numéro 3000, celle-là ?
Non, je ne pense pas. Alors évidemment, il y a un choix absolument impossible qui se présente à notre service photo et à nos rédacteurs en chef photo, c'est faire une sorte de cavalcade photo qui montrerait à la fois tous les styles de la photographie, du photojournalisme, parce que finalement Match c'est avant ça, c'est le photojournalisme. Comment expliquer qu'à un moment où on est bombardé d'images télé, bombardé d'informations en tout genre, il y a encore une place pour l'image fixe, pour la photo. Et alors on leur a donné cette mission impossible, comment arriver à sortir de ces archives, de ces millions de photos, puisqu'on en doit en avoir 8 millions chez nous, comment arriver à sortir ces temps forts qui puissent susciter une émotion. Alors on a essayé de se livrer à cet exercice, on était dans les coulisses du pouvoir, vous parlez de la reine Elisabeth, c'est vrai que les coulisses du pouvoir, les grandes ce monde, nous ont toujours, on a toujours
ça,
essayé
ça marche, c'est une valeur sûre. Hein.
Ça marche, on a toujours essayé de leur faire ouvrir les portes de la vraie vie, de leur vraie vie. Ça a marché formidablement bien avec la reine, avec les Kennedy.
Et à l'époque, on parlait pas forcément de communication. C'était pas pour servir les intérêts de quelqu'un.
C'est
c'était pour satisfaire
parce
la curiosité.
On utilise un mot en ce moment qui est le mot peopleisation. Ouais. Alors, ce qui est extraordinaire, c'est qu'est-ce qu'ils peopleisaient la politique dans les années 50 et dans les années 60, parce qu'ils s'affichaient avec leurs femmes, leurs enfants, et ça se faisait de façon extrêmement, extrêmement normale. On a vu cette semaine, d'ailleurs, dans le journal consacré à JJSS, JJSS qui est sur une tribune avec ses enfants à côté, ses 3 fils à côté. Et c'est vrai qu'on a l'impression qu'on a perdu un peu de candeur dans ce domaine.
Alors tiens, on va écouter un autre reportage. Reportage fait en 56. Rainier Monaco vient de faire aux États-Unis sa demande en mariage auprès de la famille de Grace Kelly et il revient dans la principauté par la mer sur le transatlantique Île-de-France où se trouve le reporter d'Europe numéro 1 et sans doute aussi celui de Paris Match.
Mon Altesse Sérénissime, le prince Rainier, prince de Monaco, a bien voulu me recevoir dans sa cabine. Monseigneur, je tiens à vous remettre au nom d'Europe numéro 1 un disque spécialement enregistré à votre intention par la direction d'Europe numéro 1 qui, vous devez le savoir, prépare ce qu'on appelle le bouquet de la princesse. Ce bouquet est un ensemble de fleurs, de petites fleurs qui ont été cueillies par tous les enfants de France et qui sera remis le jour de votre mariage à votre femme. Monseigneur, je voudrais vous demander comment s'est passé votre voyage puisque c'est une question traditionnelle, un peu bateau, certainement un peu banale. Mais enfin, je ne veux pas vous ennuyer trop longtemps.
Très bien. D'abord, je voudrais vous remercier et remercier surtout Europe numéro 1 de son initiative que je trouve très touchante et qui, quand j'en ai parlé à Miss Kelly, l'a infiniment touchée, évidemment. Vous me demandez comment s'est passé le voyage. L'Île-de-France est un magnifique paquebot, comme vous le savez. Et malgré une mer assez mauvaise, nous avons été quand même un petit peu, comme on appelle, chahutés. Mais sur ce bateau, ça se sent peu, comparativement, je crois même, à des bateaux plus récents.
Vous savez que votre histoire d'amour est la plus belle histoire que nous connaissions en France. Est-ce que vous pourriez un petit peu nous raconter la façon dont vous vous êtes rencontré avec Miss Kelly, car ça nous passionne tous.
Vous êtes très gentil, et c'est évidemment une question un peu difficile. La réponse est un peu difficile, il est toujours difficile de parler de soi-même. C'est une histoire d'amour très, très sympathique et très, très belle, comme vous l'avez dit, parce que c'est une histoire vraie, et ce n'est pas du tout une histoire fruit de publicité ou artificielle. Quant à vous dire exactement comment nous nous sommes rencontrés pour la première fois, est-ce que même les amoureux les plus simples et les plus dans la vie que nous le savent, je ne sais pas.
Et quand Miss Kelly doit-elle arriver en France ?
Elle arrivera, je pense, le 12 avril.
Elle a déjà visité son château, elle a déjà visité ses appartements.
Oui, mais presque en touriste. Elle n'a pas visité ses appartements, elle a fait le tour du palais l'année dernière, mais en visitant les grands appartements et les choses qu'on montre généralement aux visiteurs.
Est-ce que vous partirez en voyage de noces et où?
Certainement, un voyage de noces sur mon yacht, si le temps le permet. Je ne sais pas si la Méditerranée sera clémente à cette époque-là, mais je compte faire un voyage de noces d'au moins un mois en Méditerranée.
Monseigneur, je ne vais pas vous ennuyer plus longtemps et je vous remercie infiniment au nom d'Europe numéro 1 de bien avoir voulu nous recevoir. Merci beaucoup.
Je vous ai vu sourire, Olivier, en écoutant ce son de Régnier de Monaco, de retour de sa demande en mariage.
Ah oui, parce que nous, on sait comment ils se sont rencontrés pour la première fois.
Vous avez la photo ?
On a la photo, non seulement on a la photo, mais c'est Pierre Galland, reporter à Match, qui est au Festival de Cannes. Et ils sont à la recherche d'un scoop, à la recherche d'un angle, toujours la même chose à Match, qu'est-ce qu'on va pouvoir ramener pour la semaine suivante. Et ils ont l'idée d'arriver à sortir Grace Kelly, qui est cette actrice absolument rayonnante du Festival de Cannes, et ils ont l'idée de lui faire rencontrer un prince, qui est à 1h30 de voiture de Cannes, et de la faire découvrir le palais de Monaco. Et ils arrivent à convaincre l'actrice de la monter dans la voiture, et ils partent pour Monaco. Ils arrivent au palais, ils arrivent à arranger un rendez-vous de 15 minutes. Le prince est en retard, donc on a des photos de Grace, l'actrice, Grace Kelly, découvrant, émerveillée le palais de Monaco. Puis tout d'un coup, le prince arrive, et il va lui montrer le palais, il va lui montrer ses animaux domestiques, son zoo, il va lui montrer tous les fastes du palais. C'est comme ça que leur première rencontre a lieu, grâce à Match.
Et entre Paris Match et la Principauté, c'est quoi? C'est une histoire d'amour ou une histoire d'intérêt?
Nous nous sommes tant aimés et souvent fâchés. Il y a cette idée que c'est l'une des idées qui court le plus souvent, c'est qu'il y a un accord depuis des années entre Match et la Principauté. Tous les procès que nous avons chaque année sont là pour attester qu'il y a absolument pas d'accord et qu'il y a justement une rivalité, ou en tout cas il y a pas toujours eu du dialogue. Mais je pense que c'est une famille qu'on a suivie depuis le début. On en est aujourd'hui à la troisième génération avec l'arrivée de Charlotte et les enfants de Caroline et du prince Andrea.
Et comment vous allez traiter d'ailleurs justement ces grandes familles là dans le numéro spécial 3000?
On parle de la nouvelle génération. On parle de la nouvelle génération des royaux.
Il faut investir, vous avez raison.
Il y a quelques pays où les souverains vont être amenés à régner. Je parle en particulier de Victoria de Suède.
Ouais.
On parle du prince William. On parle de Felipe d'Espagne et d'Albert de Monaco, parce qu'on voit vraiment que c'est une nouvelle génération de souverains. On voit leur engagement dans certaines causes, la cause écologique en particulier pour Albert. Et ces gens-là nous intéressent beaucoup parce qu'on se demande à quoi va ressembler le pouvoir d'un roi, d'un souverain en 2010 ou en 2015 quand ils vont commencer à régner.
Ils acceptent les photographes de Paris Match?
Certains sont ouverts. Du côté de la famille d'Espagne, c'est une famille assez ouverte. Du côté de la maison de Suède aussi, on est assez décontracté. On les voit parfois sur leur bateau à Saint-Tropez l'été. Du côté de Monaco, c'est plus compliqué. La communication est plus difficile.
On fait une pause et on se retrouve en compagnie d'Olivier Royan, directeur de la rédaction de Paris Match, dans le studio des Enfants d'Europe 1.
Les Enfants d'Europe 1, Marc Tronchot.
Pour célébrer l'anniversaire de Paris Match, son numéro 3000, apparaître dans quelques jours, nous sommes en compagnie d'Olivier Royan, rédacteur en chef, directeur de la rédaction de Paris Match. L'actualité heureuse, type conte de fées, ça marche toujours. Vous avez des photographes spécialisés pour côtoyer les grands de ce monde. Il faut avoir une certaine bouteille ou il faut avoir d'abord du culot et être jeune?
Non, c'est vrai ce que vous dites. Le photographe a toujours, dans les reportages de match, le photographe a une importance tout à fait étonnante, parce que c'est lui qui met le personnage en confiance. Il est par exemple très difficile de photographier le président français, Chirac, mais en revanche, il est souvent en confiance avec Benoît Gisembert, qui l'a accompagné pendant des années.
C'est ça, il faut quand même une relation de confiance, donc un travail, je veux dire, de terrain.
Absolument. Que François Mitterrand était en confiance avec Claude Azoulay, c'est-à-dire que le photographe arrive à se faire oublier, c'est-à-dire qu'il rentre dans la, il arrive à faire des photos des instants vrais parce qu'il se fait oublier. Et quand on arrive à suivre une star en reportage, on arrive vraiment à la montrer sous son vrai jour. On est heureux parce que c'est le même défi en politique, c'est le même défi en ce qui concerne les stars du cinéma ou de la chanson, c'est comment arriver derrière la façade à avoir la vraie personne. C'est ça le défi de Match chaque semaine.
Vous allez vous amuser pendant la campagne politique à venir.
On va s'amuser, on a l'impression qu'il y aura peut-être plus de photos qu'en 2002, parce qu'en 2002, ça s'est terminé par Jacques Chirac et Bernadette, la première dame, devant un arbre dans le parc de l'Élysée. Ça a été une campagne extrêmement décevante en photo. On espère que du côté des deux candidats, il y aura plus de photos, on les verra plus en action en tout cas.
Alors si on reste dans la sphère politique, les présidents ont-ils une vie privée? Si oui, doit-on l'occulter? La question avait été posée après la publication par Paris Match des photos de François Mitterrand et de sa fille Mazarine, suite aux révélations faites dans un de ses livres par le journaliste Philippe Alexandre. Écoutez la réponse faite au micro d'Europe 1, et c'est l'occasion de les réentendre lors d'une émission animée par Michel Fid, la réponse de votre prédécesseur Olivier Royan, Roger Théron.
Roger Théron, bonsoir. Il y a quelques minutes, l'AFP faisait un petit peu le point sur les réactions qu'avait suscité ce numéro et titrait son communiqué « La fin d'un consensus dans la presse française sur les rapports politiques, vie privée des hommes politiques ». Est-ce que vous avez le sentiment d'avoir cassé un consensus ou défié un tabou ?
Non, je ne suis pas d'accord une seconde. On parle toujours de ligne jaune. Moi, je ne l'ai jamais vue, on ne me l'a jamais montrée. Je ne sais pas où elle est. Mais ce que je sais, c'est qu'on fait notre travail en conscience. Et que ce match a traité l'histoire du président parce que nous l'avons trouvée belle et même magnifique. Je veux dire, cet homme qui aime une femme depuis plus de 20 ans, qui a une enfant de 20 ans, qui est elle aussi très belle et qui est, en plus, je crois, très intelligente. Le président est tellement sensible à son charme et aux joies de la paternité qu'il a un geste sur la photo vers elle, il met la main sur son épaule, et si nous n'avions pas eu cette photo d'une tendresse infinie, je crois qu'on n'aurait pas publié le reportage. Je crois que tout est dans cette photo et dans la tendresse d'un père pour une fille. Donc cette histoire n'a rien à voir avec une ligne jaune franchie, avec la dérive. Avec la dérive, il appartient à chacun des journalistes de la définir et de ne pas y tomber.
Mais Roger, j'imagine que vous avez peut-être hésité, non, avant de publier ces photos.
Oui.
Et quel type de débat avez-vous eu entre vous?
Il n'y a pas vraiment débat parce qu'on consulte pas beaucoup de gens, parce que il fallait quand même que la.
Mais
chose
même un
reste.
Débat, un débat intime de conscience.
Oui. On dort pas pendant 2-3 nuits et puis.
Donc c'est bien que c'est pas si évident que ça quand même.
Non, c'est pas évident. Non, c'est vrai. Nous avions les photos d'ailleurs depuis quelques semaines et nous n'étions pas décidés à les publier. Et c'est le livre d'Alexandre a agi sur nous comme un détonateur.
La ligne est toujours la même, Olivier Royan.
Oui, d'une certaine manière. Je pense que ça fait chaud au cœur d'entendre la voix de Roger dans cette émission.
C'est votre père professionnel.
Absolument. Pour revenir à cette, je me souviens très bien de conversation avec Roger. J'étais alors correspondant à New York à ce moment-là. Parce qu'il me demandait de prendre le pouls un peu de la presse américaine sur ce sujet. Donc je parlais avec mes collègues du New York Times et du Washington Post. Il y a un élément qui montre un peu le génie de Roger en journalisme. C'est qu'il entend la phrase à l'interview du 14 juillet, « Je vais organiser ma succession ». C'est-à-dire que c'est un président qui est en train de parler de son héritage, qui est en train de parler de faire allusion à ses enfants. Et c'est ce qui vraiment a déclenché un peu chez Roger Théron cette idée de, voilà, Mazarine va sortir. Ce qui a probablement décalé la publication du reportage, c'est que je pense que Roger a voulu que Mazarine passe son bac tranquillement. Et c'était en pleine période scolaire, en pleine période d'examen. Et le sujet, si le sujet a été différé 2 ou 3 semaines, c'est en raison des études de Mazarine. L'autre chose, c'est que c'est vrai qu'on a dit, mais pourquoi Match n'a pas sorti l'histoire avant? Le tout Paris le savait depuis des années. Ben à Match, s'il n'y a pas de photo, il n'y a pas d'histoire. Et c'est vrai que la photo, ce geste tendre d'un père à l'heure du déjeuner, à la sortie devant le Divelec, où François Mitterrand, le restaurant connu des Invalides, où François Mitterrand pose la main sur l'épaule de sa fille, s'il n'y a pas cette photo, il n'y a absolument pas d'histoire. Vous pouvez, Mazarine marchant dans les rues de Paris,
n'est pas... Oui.
La photo légitime, elle montre l'affection. Donc cette histoire a été absolument... a été marquante dans l'histoire de Match, parce que c'est vrai qu'elle a, d'une certaine manière, on nous a dit qu'on avait brisé un tabou, mais elle s'est faite de façon quand même élégante.
Beaucoup de pages d'histoire dans ce numéro 3000 de Paris Match, autant de reportages diffusés sur Europe 1. Et comme le passé peut aider à réfléchir au présent, je vous en ai choisi un. Il paraît loin et pourtant nous sommes seulement en 1961, à Berlin, par un jour sombre. Un rideau de fer vient de tomber. Reportage pour Europe numéro 1, Claude Guillaume.
Berlin est vraiment coupé en deux. Le rideau de fer est tombé à la limite du secteur soviétique et des secteurs occidentaux. Un rideau de fer constitué pour durer. Des poteaux en ciment de 2 mètres de haut, reliés par 7 rangées de fils de fer barbelés. Les routes, les rues sont barrées par des chevaux de frise et des barricades de pierre. D'est en ouest, on ne passe plus. Du moins, les Allemands ne passent plus. Car les étrangers, eux, peuvent encore aller en secteur soviétique et en revenir. Mais à condition de ne pas prendre de photos, de ne pas avoir d'appareil d'enregistrement en bandoulière, de ne pas regarder de trop près les contrôles, et surtout de ne pas poser de questions. Ce qui frappe tout de suite, c'est la rapidité avec laquelle les barrages ont été installés. À 11h15 hier soir, une femme s'est réfugiée à l'ouest sans difficulté. Un quart d'heure plus tard, les contrôles étaient mis en place dans le métro et sur les routes. Une nuit a suffi aux soldats et aux policiers pour dresser leurs barrages. Les 100 derniers réfugiés qui sont arrivés au centre de Marienfeld cette nuit sont passés à la nage par les canaux qui séparent les deux secteurs. L'opération était donc minutieusement préparée, mais l'effet de surprise a joué à fond. Les 2662 Berlinois de l'Est qui sont passés hier à l'Ouest ont été les derniers. Ici Claude Guillaumin qui vous a parlé de Berlin, Europe numéro 1.
Olivier Royan, ça paraît proche et loin à la fois. Le mur de Berlin a été détruit, d'autres murs ont été érigés, certains sont en cours de construction. Cette permanence vous inspire quel sentiment ?
Je vous parlais tout à l'heure de la mission qu'on avait confiée au service photo de match, sortir les photos les plus marquantes de notre histoire. Et bien l'une des photos qu'ils ont sorties en premier, c'est la photo d'une truelle qui dépasse d'un mur. C'est une photo faite par Patrice Abanche au moment du reportage, au moment de
en 61.
Et ça reste une des photos les plus marquantes de ces 40 dernières années. Absolument extraordinaire. Certes, cette photo nous marque beaucoup et
qui pourrait trouver son équivalent. Aujourd'hui,
elle a trouvé son équivalent avec des reportages dans les territoires occupés, avec ce mur extraordinaire qui tout d'un coup est sorti du sol entre Israël et les Palestiniens, qui nous a beaucoup marqué, parce que photographiquement, on retrouvait ces images du passé. On croyait que les murs étaient tombés. Et puis une autre muraille entre le Mexique et les États-Unis. Là aussi, des photos très fortes. Paradoxalement, photographiquement, la chute du mur est un événement moins intense au niveau des photos. On voit des gens faire la fête devant le mur, mais on retrouve pas l'intensité de ces photos de 61 en noir et blanc où tout d'un coup on ressent l'extraordinaire douleur, ce qui va se passer, on pressent ce qui va se passer.
Marc Tronchot.
Les enfants d'Europe 1 reçoivent aujourd'hui leurs cousins, et parmi eux, Olivier Royan, le directeur de la rédaction de Paris Match, à l'occasion de la sortie dans quelques jours du numéro 3000, de l'hebdomadaire. Les murs, on en parlait à l'instant, ils précèdent, ils suivent les guerres. Ces reportages-là sont ceux qui marquent des générations d'auditeurs et de lecteurs. Paris Match et Europe 1, là encore, cette complémentarité de l'image choc et du reportage en direct. Nous sommes en 68, la guerre du Vietnam. Pour Europe numéro 1, Julien Besançon.
Fusil mitrailleur qui est là, 100 mètres à gauche, derrière des fils à eau, derrière des arbres dont les feuilles sont comme des toiles d'araignée. On a reçu des tirs un peu toute la journée. Il semble bien que l'unité Viet Cong soit dans la forêt, environ 1500 mètres devant nous. La forêt commence à brûler. On ne voit plus à 2 mètres malgré les fusées éclairantes et les balles traçantes. On ne voit plus rien.
Ah non.
Et le combat dure comme ça maintenant, depuis plusieurs heures. Il va durer toute la nuit au hasard.
Attends.
Olivier Royant, les journalistes sont aussi parfois des frères d'armes. Il y en a beaucoup à Paris Match. Vous les voyez après ce type de reportage? Vous les bavardez avec eux?
Bien sûr, j'étais à Budapest il y a 2 semaines. On a inauguré le buste de Jean-Pierre Pedrazzini, reporter de match, novembre, qui est reporter de match mort à Budapest et qui est resté une sorte de héros national puisqu'il a photographié, il a laissé au patrimoine hongrois toutes ces photos de la révolution de 56. Novembre 56 pour match, c'est un mois terrible puisqu'on a perdu 2 photographes en l'espace de 15 jours. Jean Roy, Pedrazzini à Budapest et Jean Roy à Suez. J'étais il y a quelques années, il y a 3 ans, dans une situation extraordinaire puisque nous avions une équipe qui allait franchir la frontière entre le Koweït et l'Irak avec les forces américaines. Et tout d'un coup, je me suis dit, mais c'était Caroline Mangez et Alors Okanovas qui étaient donc embedded avec le 41e régiment.
Embedded, c'est-à-dire
qui accompagnait, qui participait à l'invasion avec les forces américaines. Et c'est vrai que tout d'un coup, j'ai retrouvé ces frissons. Je veux dire, ce risque que prennent nos correspondants de guerre de façon quasiment quotidienne.
On peut faire un parallèle avec l'Irak aujourd'hui? Quand on réentend Besançon au cœur de la forêt ou de la jungle au Vietnam et voir les photos aujourd'hui qui sont faites en Irak.
Les envoyés spéciaux de match au Vietnam vous disaient que la particularité du Vietnam, c'est qu'ils pouvaient aller partout. C'est-à-dire qu'ils prenaient leurs propres risques, mais finalement, il n'y avait pas d'organisation vraiment de la presse. Vous suiviez une unité combattante à vos risques et périls. Aujourd'hui, quand on suit une unité américaine, on a actuellement un reportage qui est en train d'être réalisé avec un hôpital de campagne à Bagdad, on est quand même sérieusement encadré. Et en plus, on vous dit n'y allez pas. Le gouvernement français vous dit n'y allez pas. Or, je pense que on ne peut pas accepter simplement de ne pas y aller. Il ne peut pas y avoir de guerres qui ne sont pas couvertes. Or, la guerre irakienne actuellement est extrêmement dissuasive pour les journalistes, des rédactions comme les nôtres, puisque si vous n'êtes pas tué par un sniper des insurgés, vous pouvez être pris en otage ou sauter dans un engin avec les Américains. Donc c'est vrai que ça a été tout au long de notre existence et jusqu'à un passé d'il y a 15 jours. C'est vrai que vous parlez parfois à des journalistes sur le terrain. Je pense à des Michel Perard, des Caroline Mangez, et vous entendez les balles siffler derrière. On a Jacques-Marie Bourget qui a reçu une balle pendant qu'il couvrait l'intifada en Israël. Ça reste des choix éditoriaux extrêmement difficiles à faire, mais je pense qu'on est obligé, on doit le faire.
Le journal que vous animez, vous le vivez comme un journal international?
C'est une dimension très importante de Paris Match. Je veux dire, c'est une dimension très importante parce qu'on a, pour nous, c'est vrai qu'on essaye chaque semaine de capter les Français, d'être proche de ce public français. On ressemble tellement à la France de par notre aura, de par notre histoire, mais on essaye aussi on se mesure aux grands magazines internationaux, que sont les magazines allemands comme Stern, comme le Sunday Times, comme Time, Newsweek. Et on est content quand dans le journal on a l'impression qu'on a été à la hauteur de ces grands magazines. Il y a une phrase célèbre de Life, du patron de Life en 63, qui écrit une lettre au patron de Match et qui lui dit concernant l'attentat de Kennedy à Dallas, vous avez été meilleur que Life.
L'attentat en 63 contre le président des États-Unis. On écoute.
Put me on, Phil, put me on. Passez-moi l'antenne,
c'est fait. Nous sommes près de la chambre de commerce. Le cortège arrive, je vois de très nombreuses motos, des motos de police. Il y a eu un appel sur les radios de police pour demander à toutes les unités du quartier de rejoindre le défilé. Il s'est passé quelque chose. Il semble qu'il y ait eu une fusillade. La voiture du président arrive vers nous, je la reconnais. Je vois Mme Kennedy assise, toute droite. Il y a un agent des services secrets allongé sur la voiture. Il semble que le gouverneur et Mme Connally sont dans la voiture avec le président et Mme Kennedy. On ne peut pas dire qui a été touché, si même quelqu'un a été touché, mais apparemment il se passe quelque chose de grave, de très grave. Je suis derrière le cortège, j'essaie de le suivre sur le chemin de l'hôpital. L'homme des services secrets est toujours sur la voiture avec, semble-t-il, le président et Mme Kennedy. Et aussi le gouverneur et Mme Connally. Au moment où je parle, on ne peut dire si c'est 1, 2 ou 4 personnes dans la voiture qui sont victimes des coups de feu.
Le président Kennedy, donc, est mort. Il a été assassiné. C'est à 8h20 ce soir que nous avons appris qu'un attentat avait eu lieu contre le président des États-Unis à Dallas, au Texas. Le président Kennedy a été tué à coups de revolver. Un jeune homme aurait été arrêté. Un jeune homme qui aurait participé à l'attentat. Plusieurs coups de feu ont été tirés. Le gouverneur du Texas a été grièvement blessé en même temps que le président Kennedy. Jacqueline Kennedy était aux côtés de son mari quand les premiers coups de feu ont éclaté. Le président Kennedy, touché, est tombé en avant dans la voiture découverte. Du sang a coulé. Jacqueline Kennedy s'est écriée « Non, ce n'est pas possible ». Il y avait 250 000 personnes dans la ville de Dallas sur le passage du cortège officiel. Une panique a suivi. Des gens ont été piétinés. Autour de la voiture présidentielle, certains inspecteurs des services secrets chargés de la garde du président ont été touchés par les balles. L'un d'eux serait mort. À l'hôpital de Dallas, où il avait été transporté, le président Kennedy, qui est catholique, a reçu l'extrême onction, mais il est mort avant d'avoir pu être opéré. Il est mort après plusieurs transfusions de sang, et la nouvelle qui est arrivée tout de suite à New York a produit un effet foudroyant dans la plus grande des villes américaines.
On a reconnu la voix d'André Arnault, grand journaliste, grand présentateur d'Europe 1, et s'il fallait une illustration de ce que... Le direct, c'est le meilleur de la radio. Je crois que vous l'avez entendu. Olivier Royant, c'est un reportage radio, c'est un reportage photo aussi. Absolument. Comment on fait pour avoir les photos d'un événement comme celui-là?
Un match, on dit toujours, il y a toujours une photo. Ce qui est extraordinaire dans notre histoire, qui dure depuis des années, c'est que sur tout événement, tout ce qui se passe dans le monde, il y a toujours une photo. On est toujours à la recherche de cette photo existante. On l'aura pas forcément la première semaine, mais on arrivera toujours à la trouver, parce qu'elle a souvent été faite par les amateurs, à moins qu'un des photographes professionnels soit sur place. Dans le cas de Dallas, au Daily Plaza, c'est vrai qu'il y avait pas beaucoup de... Il y a une série photo, il y a le film de Zapruder, et autrement, c'était assez sur l'événement lui-même, il y a assez peu de photographies. Les documents étaient très rares. C'est pour ça que d'entrée, le film de Zapruder a été la base photographique sur laquelle tous les magazines ont essayé de se battre pour pouvoir avoir le meilleur document et pour pouvoir un peu expliquer ce qui s'était passé.
On a l'impression que le clan Kennedy a toujours une popularité aux États-Unis que n'auront jamais ni la famille Bush ni la famille Clinton. Vous avez suivi Bill Clinton pendant pas mal de temps. Vous étiez presque un familier du président des États-Unis. Je me trompe en disant ça ou le plus grand des communicateurs reste aux États-Unis, Kennedy, et pour encore pas mal de temps?
Il reste toujours une image de référence, c'est-à-dire que dès qu'un gouverneur ou dès qu'un sénateur commence à apparaître dans une campagne, on fait toujours référence à « c'est le nouveau Kennedy ». On est toujours à la recherche de cette image parfaite d'une sorte de bonheur fictif d'une Amérique qui a duré pendant 3 ans, parce que le royaume de Camelot, du roi Arthur. Ça a été extraordinaire, c'était de redécouvrir au milieu des années 90 John Kennedy, le fils. J'étais à ce moment-là à New York quand John Kennedy s'est lancé dans le magazine George que lançait le groupe aux États-Unis. C'était absolument incroyable de voir comment les Américains se reprojetaient en lui, avaient envie que d'une nouvelle qu'il accède un jour à la Maison Blanche. Et j'ai toujours été fasciné de me promener avec lui dans les rues de New York, ou même d'être à Central Park ou dans un restaurant, et de voir comment il y avait une sorte d'étincelle qui s'allumait dans le regard des Américains, des New Yorkains, en disant ça y est, c'est peut-être possible, il y aura un jour un Kennedy à la Maison Blanche. Je pense que John un jour n'aurait pas pu résister à son destin national. On voit en particulier aux États-Unis aujourd'hui comme peut apparaître une certaine dimension dynastique. Les Américains acceptent l'idée qu'un fils puisse succéder à son père, comme on l'a vu avec Bush. Donc un Kennedy aurait pu arriver un jour à la Maison Blanche, oui, en la personne de John.
Olivier Royan, on se retrouve dans quelques instants, on observe une pause et retour dans le sud des enfants d'Europe 1.
Marc Tronceau.
Retour avec les enfants d'Europe 1 et autour des enfants d'Europe 1 avec Olivier Royan, directeur de la rédaction de Paris Match pour la sortie du numéro 3000 dans quelques jours. Il faut savoir toujours regarder le métier qu'on fait. Est-ce que la mort de la princesse Diana, qui a été un événement planétaire, a fait réfléchir au fond sur nos pratiques journalistiques, ou bien est-ce qu'il y a... pas vraiment de vraies questions à se poser?
Non, je pense que ça a été un événement fondamental. On a vu dans les... Ce qui est paradoxal, c'est qu'aujourd'hui, tous les photographes ont été absolument blanchis, c'est-à-dire qu'ils n'avaient rien à voir avec cet accident de la circulation. Mais à l'époque, en 97, ça a déclenché vraiment une vague un peu d'hystérie dans le public, et les rédactions, des rédactions comme Match, l'ont senti très vivement. Je pense que ça a mis il y a eu beaucoup d'amalgame, il y a eu beaucoup d'interrogations. On a vu tout d'un coup l'expression people apparaître. On a vu, apportant une sorte de connotation négative à ce qu'on appelait avant personnalité.
Et on a tiré des enseignements.
on a tiré des enseignements
sur nos pratiques, peut-être que on a accusé les paparazzi d'être responsables de pour chercher la photo, pour traquer, pour filer les personnalités.
Oui, mais ça, 8 ans après, la justice a prouvé qu'il n'avait absolument rien à voir avec un accident de la circulation d'une voiture qui roulait trop vite sous le pont d'Alma. En revanche, on a vu que ça a eu un impact très important sur la presse. On a vu qu'il y a eu des interrogations sur justement tout ce qui concernait les paparazzi, la photo de traque. Et il a fallu plusieurs années avant que le public de nouveau accepte de regarder les célébrités, accepte de revoir des photos de paparazzi qui aujourd'hui sont absolument omniprésentes dans beaucoup de magazines.
On revient quelques instants sur ce drame avec Alain Delmas.
Lady Diana a été admise peu avant 2h du matin aux urgences de l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière. Son état, d'abord jugé gravissime après 40 minutes de désincarcération, a donc nécessité une réanimation intensive. Les médecins réanimateurs ont diagnostiqué de multiples fractures, mais aussi un important traumatisme crânien, ainsi qu'un traumatisme thoracique majeur accompagné d'une hémorragie pulmonaire qui a d'abord pu, dans un premier temps, être contenue. Mais la princesse de Galles a par la suite été victime d'un arrêt cardiaque. Et là, les massages cardiaques externe comme interne, prodigué pendant 2 heures, n'y ont rien fait. Lady Diana est donc décédée à 4 heures ce matin des suites de ses blessures. Toute la nuit, les officiels l'avaient convergé vers l'hôpital et c'est donc il y a un peu plus d'une heure que Jean-Pierre Chevènement, le ministre de l'Intérieur, a annoncé lui-même la dramatique nouvelle à la presse internationale. Jean-Pierre Chevènement s'était lui-même rendu au milieu de la nuit au service des urgences et s'est entouré des médecins ainsi que de l'ambassadeur de Grande-Bretagne qu'il a donc annoncé, très ému, la mort de Lady Diana, décédée cette nuit à 4 heures à la suite d'un terrible accident de la circulation en plein Paris.
Alain Delmas, un enfant d'Europe 1 qui nous a quittés cette semaine. Alain, dont le courage et la sensibilité, ça peut aller ensemble, nous manque déjà beaucoup. Un mot, Olivier Royant, sur ce qui est devenu par la suite une sorte d'affaire autour de Diana.
Je crois qu'immédiatement, il y a eu un grand débat autour de la photo, autour de qu'est-ce qu'on a le droit de publier comme photo et dans quelle mesure on a le droit de photographier les personnalités célèbres. Et ça a ouvert une brèche énorme sur le contrôle de la photo, c'est-à-dire fallait-il voter des lois plus sévères pour contrôler les images, pour empêcher les photographes d'accéder à ces photos. Donc, en ce qui nous concerne, on a toujours vu ces lois qui visent à contrôler les photos de façon extrêmement négative, puisqu'elles tentent à contrôler les images, elles tentent à réduire et à censurer d'une façon ou d'une autre les images. On reste un petit peu dans ce climat quand même quelques années après.
Qui sont, Olivier Royan, les vedettes des Français aujourd'hui? Est-ce que ce sont les hommes qui défendent l'environnement, ceux qui grimpent les montagnes, ceux qui vont dans l'espace, les médecins qui réparent les hommes? Qui sont les vedettes aujourd'hui?
On parlait tout à l'heure des hommes politiques, les grands hommes se réduire un peu. On a vu aussi, on a vu un petit peu en France la place du cinéma se réduire au profit des animateurs de télé, de la télévision qui a pris un grand rôle. C'est vrai que sur ces 20-30 stars sur lesquelles Match pouvait compter pour ses couvertures dans les années 70, 80 ou même 90, on en voit beaucoup moins aujourd'hui. Il est plus difficile d'accéder au statut de star. Les actrices, les jeunes actrices ne veulent pas devenir des stars. Elles veulent être des actrices. Elles veulent prendre un petit cachet, faire des photos de temps en temps, mais elles ne veulent pas être Marilyn.
Qui vaut une couverture de Paris Match? Il faut être qui ou avoir fait quoi?
D'une certaine manière, il faut le mériter. Il faut mériter l'affiche du film chaque semaine. Et Match, la couverture de Match reste l'affiche du film. Il faut être une personne...
Que les gens admirent?
Que les gens admirent, mais... La couverture de Match, c'est pas simplement une personne connue. C'est une des fausses idées que j'entends le plus souvent, c'est que ce serait trop simple. S'il suffisait de mettre à la une de Match quelqu'un de connu. La couverture de Match, c'est une histoire d'abord. C'est une histoire humaine et c'est une histoire dans laquelle le public peut se reconnaître. Et c'est pour cette raison que on a souvent accompagné des grands acteurs, que ce soit Delon, Adjani, Belmondo, parce qu'ils nous ont ouvert leur vie tout au long de leur carrière, tout au long de leur vie, et ils l'ont fait de façon sincère. Et aujourd'hui, c'est vrai que les gens viennent souvent, rentrent dans ce qu'ils appellent des tournées promo. Alors ils font de la promo pour leur film. Ils vont vous dire comment ça s'est très bien passé avec le réalisateur, ou comment le film était merveilleux, le scénario était merveilleux, mais ils hésitent à entrouvrir les portes de leur vie. Ils hésitent à dire vraiment qui ils sont. Et il est de plus en plus difficile de trouver ces stars. Donc c'est vrai qu'on les recherche ailleurs. Vous avez parlé des héros de l'écologie. C'est vrai qu'actuellement dans le monde, on parle d'Al Gore, on parle en France de Nicolas Hulot. Tous ces gens qui sont des pionniers dans ce domaine, qui tirent la sonnette d'alarme, ont acquis un statut de héros.
Et puis les conquérants et les aventuriers. Je parlais des montagnards. Il y a une photo que vous allez publier, qui est une photo assez magique.
Oui, ces fameux conquérants de l'inutile. Ben, ces fameux conquérants de l'inutile qui s'appellent Mazot, qui s'appellent Maurice Herzog. Tous ces alpinistes, ils ont fait plus de 25 ou 30 couvertures de matchs depuis la création du journal. C'est-à-dire qu'ils nous ont fait découvrir la montagne, on a tremblé avec eux. Et là encore, un exploit, un défi. La rédaction de matchs a décidé de créer cette cordée prestigieuse et de les monter ensemble sur le massif du Mont Blanc, en hélicoptère cette fois parce qu'ils sont plus tout jeunes. Et on les a vus partager un moment extraordinaire. Alors on a l'ancienne génération, on a les Mazot, les Herzog, et puis on a la nouvelle génération d'Estivelle, tout le monde est là, et c'est un moment très intense. Alors il y a cette actualité que l'on couvre, on a parlé des guerres tout à l'heure, et puis il y a cette actualité qu'on essaye de faire, et on la crée parfois par des rencontres magiques comme ces montagnards, ces grands héros de la montagne française que l'on retrouve cette semaine en haut du Mont Blanc.
Alors Olivier Royan, ce numéro de 3000, vous m'avez dit au téléphone quand on s'est parlé que vous l'aviez conçu comme une sorte de pont entre hier et demain. Si on prend l'exemple de la France, qu'est-ce qui a changé et qui mérite d'être dans le 3000 de match ?
Sur la France, ce qui est extraordinaire, on parle beaucoup des banlieues actuellement.
Oui.
On a retrouvé un reportage magnifique sur les blousons noirs en banlieue. On a suivi une bande de blousons noirs et qui parle du mal-être en banlieue dans les années 60, et on a décidé de republier le reportage. On les voit, ils posent devant leur barre d'immeuble, qui est aujourd'hui d'ailleurs un quartier qui est devenu un petit peu un quartier bobo de l'Est parisien. Et ils racontent le mal-être en banlieue, tous leurs problèmes d'identité. Et ce qui est assez étonnant, c'est qu'ils parlent de la violence, ils parlent des problèmes dans leur famille et de comment ils ont un peu...
C'est inquiétant, ça veut dire que les problèmes n'ont pas été réglés, que
ça veut dire que les problèmes n'ont pas été réglés. Mais je pense que ce sera un très bon éclairage sur la France d'aujourd'hui à travers un magnifique reportage d'hier, comme vous le faites si bien dans cette émission.
Et il y a aussi des aventures modernes qui sont à suivre, et c'est peut-être par exemple dans le milieu de l'aéronautique. L'A380, malgré des débuts commerciaux mouvementés, on ne va pas oublier la performance, et les avions, ça fait toujours rêver.
Oui. Excusez-moi, je vous interromps parce que Bernard Chabert nous demande tout de suite l'antenne.
Ça va partir.
Oui, c'est qu'il va se passer quelque chose, puisque la corvette d'escorte, qui est le petit avion, le petit biréacteur d'accompagnement du premier vol, il a rentré ses roues, il est en train de virer au-dessus de nous. La corvette achève son virage, elle s'aligne sur la droite de la piste à environ 200 mètres d'altitude. Voilà, elle revient, elle est sur l'axe. Les caméras à bord doivent être en train de tourner et normalement le lâcher des freins devrait être à peu près maintenant.
Oui, alors donc là, on est vraiment l'adrénaline, ça y est, on y est complètement. Ça va être un petit peu la mouche et l'éléphant, hein, derrière Bernard Chabert.
La corvette, c'est un peu la fourmi dans le ciel. L'Airbus roule.
Ça y est.
Voilà. Les quatre moteurs ont été montés en puissance.
10h29.
L'avion accélère. Le décollage se fera à 265 km/h environ. Il accélère. Il fait vraiment pas beaucoup de bruit. Il a un bruit extrêmement sourd, extrêmement grave. Ça y est, la vitesse monte. Là, on doit être à peu près à 200-210 km/h. Tout doucement, ils vont le cabrer. Il passe, il arrive devant nous. Il cabre, il quitte la salle. L'Airbus 380, le plus grand avion commercial de toute l'histoire, vient de décoller à 10h30 précise de la piste de Toulouse-Blagnac. Et croyez-moi, vous avez des milliers de personnes qui, normalement, sont des gens relativement pondérés et calmes et qui ont les larmes aux yeux. Ils applaudissent, ils sont médusés. C'est vrai que cet avion est grand dans le ciel. C'est un grand avion, c'est un bel avion. Voilà, l'avenir s'écrit. Il va probablement falloir vivre pendant 40 ans avec cet avion. C'est sa durée de vie normale. Et ce vol d'essai, lui, il va durer 4 heures si tout va bien.
Voilà, et toujours la même constatation, la magie du direct en radio. Je voulais terminer sur cette aventure qui est d'une certaine manière de l'optimisme sur des ailes. C'est dans l'espace peut-être que les prochaines aventures humaines, les plus belles aventures vont se faire.
Peut-être qu'on a envie de retourner dans l'espace, parce que moi je me souviens très bien que J'ai une anecdote, la première fois que j'ai découvert Match, c'est quand même quand mon père m'a ramené le numéro sur la conquête de l'espace, sur ils ont marché sur la Lune. C'est comme ça que je suis rentré dans le journal, moi. Pour la première fois, comme jeune lecteur. Et c'est vrai qu'on a perdu cette magie de l'espace, qu'on a envie d'y retourner, parce que dans le journal, ça a donné lieu à des reportages extraordinaires. La semaine dernière, on parlait à cette astronaute iranienne, qui elle était touriste sur un des vols habités des missions russes. Et finalement, elle nous a mieux raconté l'espace que toutes les interviews d'astronautes. Elle a été formidable. Elle nous a raconté par le menu le décollage, l'entraînement, les problèmes personnels à bord. Et finalement, on voit bien à quel point l'espace reste quand même un réservoir d'aventures formidable pour nous. Et c'est vrai que chez nous, on continue à s'adapter. Autant on a vu ces merveilleuses photos, vous saviez, de l'opération sur un fœtus, où on s'intéressait à l'immense, au tout petit, à ce qui est plus petit, au microscope pratiquement, et aussi on s'intéresse à l'immensément grand, aux planètes. Et c'est ça que c'est cet énorme spectre qui est passionnant.
Sur les quelques millions de photos que vous avez en stock à Paris Match, il y en a une que vous préférez? Ou c'est une colle?
Non, c'est pas une colle. C'est une photo que j'aime beaucoup, que j'ai dans mon bureau. C'est une photo d'Eric Valli. C'est un petit gamin, un petit Indien qui l'a photographié, qui est souriant, qui tient avec lui un petit peu un pot de un pot d'eau. Et elle est très émouvante. Elle m'interpelle. Dans ce numéro qu'on essaye de faire cette semaine, on pose la question: quelle planète va-t-on laisser à nos enfants? Et c'est vrai que tous les matins, quand j'arrive dans mon bureau, je croise le regard de cet enfant et je pense vraiment à tous ces sujets-là.
On peut le trouver quand, ce numéro?
Dès jeudi, chez tous vos...
Dès jeudi. On en reparlera sur cette antenne. Merci, Olivier Royan, d'avoir accepté cette réunion de famille. Les enfants d'Europe 1, c'est chaque dimanche de 10h à 11h. Je vous souhaite une excellente fin de dimanche, une bonne semaine et surtout, une très belle radio.